Émile et les détectives par Erich Kästner. Première cassette, deuxième face, page 42. Chapitre 3. En route pour Berlin. Émile enleva sa casquette et dit : Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Y a-t-il une petite place pour moi ? Il y en avait une, naturellement. Et une grosse dame qui avait enlevé sa chaussure gauche pour soulager un pied trop serré, dit à son voisin qui soufflait comme un phoque : Les enfants aussi polis que celui-là sont bien rares aujourd'hui. Quand je pense à ma jeunesse, mon Dieu, nous avions une autre mentalité. En parlant, elle remuait en cadence au fond de son bras gauche son oreille contusionnée. Émile, intéressé, la regardait. Et l'homme soufflait tellement qu'il pouvait à peine approuver. Émile savait depuis longtemps que certaines personnes répètent toujours « Mon Dieu, que tout allait mieux autrefois !» Il ne faisait même plus attention lorsque quelqu'un déclarait que jadis l'air était plus sain ou que la tête des bœufs était plus grosse. Car en général, ça n'était pas vrai. Seulement ces gens-là n'étaient plus contents de rien. Il tâta la poche droite de son veston et se sentit tranquille en entendant crisser l'enveloppe dans laquelle était l'argent. Ses compagnons de voyage, d'ailleurs, inspiraient confiance et ne ressemblaient ni à des voleurs ni à des assassins. À côté de l'homme qui soufflait si terriblement, était assise une femme qui tricotait un châle. Dans le coin, près de la fenêtre et à côté d'Émile, un monsieur en chapeau melon lisait le journal. Tout à coup, il mit son journal de côté, sortit de sa poche une tablette de chocolat et la tendit au jeune garçon en lui disant « Est-ce que le cœur t'en dit, petit ?»« Si ce n'est pas indiscret, » répondit Émile, et il prit le chocolat. Puis il enleva prestement sa casquette, s'inclina et se présenta. « Je m'appelle Émile Tischbein. » Les voyageurs sourirent. À son tour, le monsieur souleva son chapeau gravement et dit « Enchanté, je m'appelle Grundeis, G-R-U-N-D-E-I-S. » La grosse dame qui avait enlevé sa chaussure gauche demanda « Est-ce que Kurzhals, K-U-R-Z-H-A-L-S, a toujours son magasin à Neustadt ?»« Mais oui, certainement, » répondit Émile. « Le connaissez-vous ? Il a même acheté son fonds de commerce. » « Eh bien, tu lui diras bonjour de la part de Madame Jacob de Grossgrunau, G-R-O-2-S, trait d'union, G-R-U-N-A-U. C'est qu'à présent, je pars pour Berlin. »« Ça ne presse pas, quand tu reviendras ?» dit Madame Jacob. Et elle recommença à faire tourner son orteil et se mit à rire si fort que son chapeau lui tomba sur le nez. « Ainsi donc, tu vas à Berlin ?» interrogea M. Grundeis. « Oui, et ma grand-mère m'attendra à la gare de Friedrichstrasse, devant le kiosque de la fleuriste, » répondit Émile en tâtant de nouveau son veston. L'enveloppe crissait toujours, Dieu merci. « Connais-tu Berlin déjà ?»« Non. »« Eh bien alors, tu vas être ébahi. » »« Il y a à Berlin des maisons neuves hautes de 100 étages, et on a été obligé d'attacher solidement les toits au ciel pour qu'ils ne s'envolent pas. » Et si quelqu'un est très pressé de se rendre dans un autre quartier de la ville, on l'emballe vite dans une caisse à la poste. On met la caisse dans un tube et on l'envoie comme un pneumatique au bureau de poste du quartier où le monsieur voulait aller. Et si on a besoin d'argent, on va dans une banque et on laisse sa cervelle en gage et on vous donne 1000 marques, 10 000 francs, en échange. L'homme ne peut vivre que 2 jours sans cervelle. Et il ne peut la retirer de la banque qu'en rapportant 1200 marques. On a inventé des appareils chirurgicaux extraordinairement modernes. « Faut croire que vous venez justement de laisser votre cervelle à la banque, » dit l'homme qui soufflait si fort. Et il ajouta, « Cessez donc ces stupidités. » D'angoisse, les orteils de la grosse Madame Jacob ne bougeaient plus, et la dame qui tricotait son châle s'était arrêtée. Émile riait du bout des lèvres. La discussion continuait entre les deux messieurs. Émile se dit « Vous avez bien voulu m'attraper, vous. » Et il se mit à ouvrir son paquet de saucisses, bien qu'il vînt seulement de déjeuner. Tandis qu'il mangeait sa troisième saucisse, le train s'arrêta dans une grande gare. Émile n'apercevait nulle part le nom de la station et il ne comprit pas non plus ce que l'employé criait devant la fenêtre. « Ah ben là ! Ah ben là ! Trois minutes d'arrêt ! Ah ben là !» Presque tous les voyageurs descendirent. L'homme soufflant, la dame au tricot et aussi Madame Jacob. Elle faillit ne pas avoir le temps de descendre parce qu'elle ne retrouvait pas sa chaussure. « N'oublie pas de saluer M. Coursals de ma part, » dit-elle encore une fois. Émile fit un signe d'assentiment. Il se trouvait donc seul, maintenant, avec le monsieur au chapeau melon. Cela ne lui plaisait guère. Un homme qui vous offre du chocolat et qui raconte des histoires absurdes, c'est bizarre. Émile éprouva le désir, pour faire diversion, de prendre son enveloppe, mais il n'osait pas dans le compartiment. Lorsque le train se remit en marche, il gagna les toilettes. Là, il tira l'enveloppe de sa poche et compta son argent. Le compte y était toujours. Mais il ne savait qu'en faire. Enfin, une idée lui vint. Il prit une épingle qu'il trouva sur son veston, la piqua dans les trois billets, puis dans l'enveloppe, puis enfin dans la doublure de son vêtement. C'est-à-dire qu'il épingla solidement son argent. Ainsi, songea-t-il, il ne peut rien m'arriver. Puis il rentra dans le compartiment. M. Grundeis, installé confortablement dans un coin, dormait. Émile était content de ne pas avoir à soutenir une conversation et il regarda par la fenêtre. Des arbres, des ailes de moulins à vent, des champs, des usines, des troupeaux de vaches, des paysans, des filets devant lui. Et c'était très curieux de voir tout cela tourner presque comme sur un disque. Mais tout de même, on ne peut pas rester des heures à regarder par la fenêtre. Monsieur Grundeis continuait à dormir et ronflait légèrement. Émile aurait bien volontiers remué un peu, mais il craignait de réveiller son vis-à-vis, et c'est justement ce qu'il ne voulait pas. Alors il se carra dans le coin opposé du compartiment et considéra le dormeur. Pourquoi cet homme gardait-il toujours son chapeau sur la tête? Quelle longue figure il avait, avec une petite moustache fine et noire, et autant de plis autour de la bouche. Ses oreilles étaient très minces et très écartées. Mon Dieu ! Émile sursauta et demeura plein d'effroi. Il avait failli s'endormir, et il ne le fallait pas, sous aucun prétexte. Si au moins quelques nouveaux voyageurs pouvaient monter. Le train s'arrêta deux ou trois fois, mais personne ne monta. Il était à peine 4 heures, et Émile avait encore 2 heures de voyage en perspective. Il se pinça la jambe. C'était une grande ressource en classe pour ne pas s'endormir pendant la leçon d'histoire de M. Bremser, B-R-E-M-S-E. Tout alla très bien pendant quelques instants. Émile pensa à sa cousine, Pony Bibi, et se demanda comment elle était à présent. Il ne pouvait plus du tout se souvenir de son visage. Il se rappelait seulement que, à sa dernière visite, lorsqu'elle était venue à Neustadt avec grand-mère et tante Martha, elle avait voulu boxer avec lui. Mais il s'y était refusé car elle était poids-plume, tandis qu'il était au moins un mi-lourd. Le combat eût été déloyal, lui avait-il expliqué, et un coup de poing lancé d'en bas, un uppercut, U-D-P-E-R-C-U-T, de lui, l'eût réduit en bouillie. Mais elle ne lui avait laissé la paix que sur une intervention de tante Martha. Bon, il avait failli tomber de la banquette. S'était-il de nouveau endormi? Il se pinça et repinça la jambe. Cette malheureuse jambe devait déjà être couverte de noir et de bleu, et cependant, cela ne servait à rien. Il essaya de compter les boutons de la banquette. Il compta d'abord du haut en bas, puis ensuite de bas en haut. De haut en bas, il y avait 23 boutons. De bas en haut, il y en avait 24. Émile s'appuya au dossier du compartiment et réfléchit à cette singularité. Là-dessus, il s'endormit. Chapitre 4. Un rêve dans lequel on court beaucoup. Émile eut tout à coup l'impression que le train tournait en rond, comme le font les petits trains avec lesquels les enfants jouent à la maison. Il regarda par la fenêtre et trouva cela très étrange. Le rond se rétrécissait toujours. La locomotive se rapprochait toujours davantage du dernier wagon. Elle avait vraiment l'air de le faire exprès. Le train tournait et retournait sur lui-même comme un chien qui cherche à se mordre la queue. Et au milieu de cette ronde folle et frénétique, il y avait des arbres, un moulin de verre et une grande maison à 200 étages. Émile voulut regarder l'heure et tira sa montre de sa poche. Il tirait, et enfin apparut la pendule de la chambre de sa mère. Il regarda le cadran sur lequel il lut 185 heures au kilomètre. Défense sous peine de mort de cracher sur le plancher. Il regarda de nouveau par la fenêtre. La locomotive s'était encore rapprochée du dernier wagon. Émile avait très peur, car si la locomotive heurtait la dernière voiture, il y aurait un accident, c'était clair. Émile ne voulait à aucun prix attendre cette éventualité. Il ouvrit la portière, descendit et se mit à courir le long des rails. Peut-être le mécanicien s'était-il endormi. Tout en courant, Émile jetait un coup d'œil à l'intérieur des compartiments. Il n'y avait personne. Le train était vide. Émile n'aperçut qu'un seul homme. Il avait un chapeau melon en chocolat. Il cassa un morceau du bord de son chapeau et l'avala. Émile frappa à la vitre et lui montra la locomotive. Mais l'homme se contenta de rire, cassa encore un morceau de chocolat et se frotta l'estomac avec complaisance. Enfin, Émile atteignit le tender. Et d'un bond énergique, il arriva jusqu'au conducteur de la locomotive. Celui-ci, perché sur son siège, faisait claquer son fouet et tenait des guides comme si des chevaux eussent été attelés à la locomotive. Et c'était bien ça. 9 chevaux tiraient le train. Ils avaient des patins à roulettes en argent sous leurs sabots et chantaient en glissant sur les rails « Courons, courons, il faut sortir de la ville !» Émile secoua le cocher et lui cria « Arrêtez, ou c'est la catastrophe !» Il aperçut alors que le cocher n'était autre que M. Yeschke, le gendarme. Celui-ci jeta sur Émile un regard pénétrant et l'interpella. « Quels étaient les autres garçons? Qui a barbouillé le visage du grand-duc Charles ?»«
Moi, dit-il.
Qui était avec toi ?»«
Je ne vous le dirai pas. »«
Alors nous continuerons à tourner en rond. »
Et le gendarme Yeschke fouetta ses chevaux, qui se cabrèrent et se mirent à courir plus vite que jamais sur la dernière voiture. Dans celle-ci se trouvait Madame Jacob, qui brandissait ses chaussures et qui avait une peur affreuse parce que déjà les chevaux cherchaient à happer ses orteils.
« Je vous donnerai 20 marques, monsieur le gendarme, » dit Émile.
« Ne dis donc pas de bêtises, » cria Yeschke.
Et avec son fouet, il frappait les chevaux comme un fou. Alors Émile n'y tint plus et sauta du train. Il fit 20 culbutes le long de la rampe, mais sans se faire de mal. Il se releva et chercha le train. Celui-ci s'était arrêté et les 9 chevaux tournaient la tête vers Émile. Le gendarme Yeschke, descendu de son siège, fouettait les chevaux et hurlait
« Hu ! Allez ! Courez après lui !»
Alors, les 9 chevaux sortirent des rails et bondirent sur Émile. Les wagons sautaient comme des balles de caoutchouc. Sans perdre son temps en réflexion, Émile se mit à courir de toutes ses forces à travers une prairie, le long d'une rangée d'arbres, par-dessus un ruisseau, dans la direction du gratte-ciel. Il se retournait de temps à autre. Sans s'arrêter, le train courait derrière lui, dans un fracas de tonnerre. Les arbres furent piétinés et réduits en miettes par les chevaux. Seul un chêne gigantesque resta debout. Sur ses branches supérieures, la grosse Madame Jacob était assise et le vent la balançait. Elle pleurait et ne retrouvait pas sa chaussure. Émile continua à courir. La maison de 200 étages avait un grand porche noir. Émile s'y précipita, traversa la maison et ressortit du côté opposé. Le train le suivit. Émile aurait bien voulu s'asseoir dans un coin et dormir, car il était affreusement fatigué et tremblait de tous ses membres. Mais il ne devait pas s'endormir, déjà le train grondait dans la maison. Alors Émile aperçut une échelle de fer. Elle montait jusqu'au toit. Il commença à grimper. Il était heureusement très fort en gymnastique. Tout en montant, il comptait les étages. Au 50e, il osa se retourner. Les arbres étaient devenus minuscules et on reconnaissait à peine le moulin de verre, Mais, ô frayeur, le train grimpait aussi sur la maison. Émile grimpa plus haut, et le train tanguait et courait sur les échelons comme s'ils eussent été des rats. 100 étages. 120 étages. 140 étages. 160 étages. 180 étages. 190 étages. 200 étages. Émile était sur les toits et ne savait plus que faire. Déjà, il entendait le souffle des chevaux. L'enfant courut à l'extrémité du toit, sortit son mouchoir de sa poche et le déplia. Lorsque les chevaux, couverts de sueur et suivis du train, arrivèrent au bord du toit, Émile éleva son mouchoir au-dessus de sa tête et sauta dans le vide. Il entendit encore le train écraser les cheminées, puis, l'espace d'un instant, il perdit le sens de l'ouïe et de la vue. Et puis, patatras, il tomba sur une prairie. Fatigué, il resta d'abord étendu, les yeux fermés, et il avait grande envie de s'abandonner à un beau rêve. Mais comme il n'était pas encore tout à fait rassuré, il jeta un coup d'œil sur le sommet de la grande maison, et il aperçut les 9 chevaux en train d'ouvrir des parapluies. Le gendarme Yeschke en avait un aussi, avec lequel il poussait ses bêtes. Les chevaux se mirent sur leurs pattes de derrière, prirent un élan et sautèrent dans le vide. Le train naviguait vers la prairie, comme avec des parachutes, et devenait de plus en plus grand à ses yeux. Émile se releva d'un bond, traversa le pré en courant et se dirigea vers le moulin de verre. Le moulin était transparent. Émile put apercevoir sa mère en train de laver les cheveux de Madame Augustin. « Dieu soit loué !» s'écria-t-il, et il se précipita dans le moulin par la porte de derrière. « Petite mère, qu'est-ce que je dois faire ?»« Qu'y a-t-il, mon garçon ?» demanda la mère en continuant son travail. « Regarde donc dehors !» Madame Tischbein leva les yeux et aperçut les chevaux et le train qui abordaient justement la prairie et se précipitaient sur le moulin. « Mais c'est le gendarme Yeschke ?» dit la mère en secouant la tête d'un air étonné. « Il court après moi comme un fou depuis longtemps. Qu'as-tu donc fait ?»« Il y a quelques jours, j'ai barbouillé de rouge le nez du grand-duc Charles à figure de travers sur la place du marché et je lui ai dessiné une moustache noire sur la figure. »« Oui, et où fallait-il donc la mettre ?» demanda Madame Augustin en éclatant de rire. « Nulle part, Madame Augustin, mais ce n'est pas ça le pire. » Le gendarme voulait aussi savoir les noms des camarades qui étaient avec moi. Et je ne peux pas les lui dire, c'est un point d'honneur. Émile a raison, dit la mère. Mais qu'allons-nous faire ? Mettez donc le moteur en marche, chère Madame Tischbein, dit Madame Augustin. La mère d'Émile appuya sur un levier à côté de la table et les 4 ailes du moulin se mirent à tourner. Comme elles étaient en verre et que le soleil tapait dessus, elles étincelaient et brillaient tellement qu'on pouvait à peine les regarder. Lorsque les 9 chevaux arrivèrent, suivis de leur train, ils prirent peur. Cabrés, ils ne voulaient plus avancer d'un pas. On entendit à travers les parois de verre les jurons du gendarme, mais les chevaux ne bougeaient pas. Là, et maintenant, vous allez pouvoir tranquillement « Finir de me laver les cheveux, dit Madame Augustin. Votre garçon ne court plus aucun danger. » Madame Tischbein revint alors à son travail. Émile s'assit sur une chaise en verre et se mit à siffler. Il rit tout à coup et déclara.
C'est merveilleux. Si j'avais su que tu étais ici, je n'aurais pas commencé par grimper sur cette diable de maison.
J'espère que tu n'as pas déchiré ton costume, répondit sa mère.
Puis elle demanda, as-tu fait attention à l'argent?
À ces mots, Émile sursauta et avec un fracas terrible, il tomba par terre. Il s'était réveillé.
Chapitre 5. Émile descend en cours de route. Le train se remit en marche au moment même où Émile s'éveilla. Pendant son sommeil, il était tombé de la banquette et il se retrouvait, très effrayé, sur le plancher. Il ne comprenait pas encore pourquoi. Son cœur battait comme un soufflet de force. Accroupi dans son compartiment, il oubliait presque où il était. La mémoire lui revint partiellement.
Mais oui, il allait à Berlin, il s'était endormi.
Comme le monsieur au chapeau melon gris.
D'un bond,
Émile se redressa droit comme un nid et il murmura.
Mais il est parti.
Ses genoux commencèrent à trembler. Lentement, il se mit debout et machinalement remit son costume en ordre. Puis, une autre pensée lui vint.
L'argent est-il toujours à sa place? Et il ressentit devant cette question une indescriptible angoisse. Un long moment, il resta appuyé contre la portière sans oser bouger. Là-bas, cet homme, ce Grundeis, tout à l'heure assis dans un coin et qui ronflait en dormant. Maintenant, il n'était plus là. Ce n'était pas une raison pour douter de tout. C'était un peu stupide de penser tout de suite. Tous les voyageurs n'allaient pas forcément à Berlin parce qu'Émile y allait. Et certainement, son argent était toujours à sa place. N'était-il pas bien caché, premièrement dans une poche, puis dans une enveloppe, et enfin attaché avec une épingle à la doublure? Lentement, Émile glissa une main dans sa poche intérieure froide. La poche était vide. L'argent avait disparu.
De la main gauche, Émile retourna sa poche. De la main droite, il tâtait l'extérieur de son veston.
Rien.
La poche était vide, l'argent envolé.
Aïe !
Émile retira la main de sa poche. Il en retira en même temps l'épingle qui avait servi à fixer les billets. Il ne restait plus qu'elle. Et elle était à présent enfoncée dans son index qui commença de saigner. Avec son mouchoir, il banda son doigt et se mit à pleurer. Ce n'était pas pour un peu de sang qu'il pleurait, bien entendu. 15 jours auparavant, il s'était presque assommé en tombant sur un réverbère. Il en avait encore une bosse sur le front, et cependant, il n'avait pas poussé un cri. Il pleurait son argent. Il pleurait à cause de sa mère. Celui qui ne comprendra pas cela, si brave soit-il, est bien à plaindre. Émile savait combien sa mère avait peiné pendant des mois pour épargner ses 140 marks et l'envoyer à Berlin. Et maintenant, à peine monsieur son fils était-il dans le train, qu'il s'installait dans un coin, s'endormait, rêvait des absurdités et se laissait voler son argent par un fil. Et il n'en aurait pas pleuré, qu'allait-il faire? Descendre à Berlin et dire à sa grand-mère, « Me voilà, mais tu sais, tu n'auras pas ton argent. Donne-moi plutôt vite de quoi payer mon billet pour que je retourne à Neustadt. Autrement, il faut que je rentre à pied. » C'était admirable, vraiment. Sa mère avait économisé inutilement. Sa grand-mère n'aurait pas un sou. Lui-même ne pouvait plus rester à Berlin et il n'avait pas de quoi revenir à la maison. Tout cela à cause d'un filou qui offrait du chocolat aux enfants et qui faisait semblant de dormir pour mieux les voler. Misère, quel triste monde. Émile avala ses larmes et considéra la situation. S'il tirait la sonnette d'alarme, le train s'arrêterait aussitôt, un employé arriverait bientôt, suivi d'un second, puis d'un troisième, et tous demanderaient « Qu'est-ce qu'il y a ?»«
On m'a volé mon argent, » répondrait-il.
Une autre fois, tu feras plus attention. Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? Ça coûte 100 marques de tirer la sonnette d'alarme. On t'enverra la note.
Dans les express, on peut au moins circuler dans le couloir d'un bout à l'autre du train et se plaindre à quelqu'un du vol dont on a été victime. Mais ici, dans un pareil omnibus, un express, c'est un train qui ne s'arrête pas à toutes les stations. Un omnibus, c'est un train qui s'arrête à toutes les stations. Et à cette époque-là, dans ces trains-là, les compartiments étaient séparés les uns des autres. Chacun avait la voie, là, une porte qui ouvrait sur le quai. Et on ne pouvait pas circuler d'un compartiment à l'autre. Et dans chaque compartiment de troisième classe ou de deuxième classe, il y avait 8 personnes. Dans chaque compartiment de première classe, 6 personnes. Il fallait se résigner à attendre la prochaine station. Et pendant ce temps, l'homme au chapeau non pouvait aller. Ah, au diable. Émile ne savait seulement pas à quelle station le bandit était descendu. Quelle heure était-il? Quand arriverait-on à Berlin? Derrière les vitres du train défilaient de hautes maisons et des villas aux jardins bariolés, puis de hautes cheminées d'un rouge sale. Sans doute était-ce déjà Berlin. À la prochaine station, Émile appellerait l'employé et lui raconterait son histoire. Immédiatement, celui-ci la transmettrait à la police. Mais alors, il aurait de nouveau affaire avec la police. Et cette fois-ci, le gendarme ne pourrait plus garder le silence. Il serait obligé de dire «
Décidément, cet élève du lycée professionnel, Émile Tischbein, ne me plaît pas. Il barbouille les monuments respectables, puis il se laisse voler 140 marques. Qui sait d'ailleurs si on les lui a volés ? Celui qui est capable de barbouiller les monuments publics est bien capable aussi de mentir. J'ai une vieille expérience. Sans doute a-t-il enterré son argent dans les bois pour pouvoir s'enfuir en Amérique. À quoi bon courir après le voleur? Le voleur, c'est Tischbein lui-même. S'il vous plaît, arrêtez-le donc, monsieur l'agent. »
Tout cela était affreux. Émile ne pouvait même pas se confier à la police. Il retira sa valise du filet, mit sa casquette, piqua de nouveau l'épingle au revers de son veston et se prépara à descendre. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire, mais il lui était impossible de rester 5 minutes de plus dans ce compartiment. C'était la seule chose certaine. Le train ralentissait sa marche. Émile aperçut une grande quantité de rails luisants, puis on longea les quais d'une gare. Quelques porteurs, avides de gagner un peu d'argent, couraient à côté des wagons. Émile regarda par la fenêtre et aperçut tout en l'air un grand écriteau. Il y avait écrit dessus « Jardin zoologique ». Les portières s'ouvrirent, beaucoup de gens descendirent du train. Ceux qui les attendaient sur le quai ouvraient joyeusement les bras. Émile se pencha à la portière. Il cherchait le chef de train. Tout à coup, il aperçut à une certaine distance et perdu dans la foule un chapeau melon. Si c'était son voleur, peut-être n'était-il pas descendu après avoir commis son larcin et n'avait-il que changé de voiture. En une seconde, Émile fut sur le quai. Il y déposa sa valise, remonta dans le compartiment, car il avait oublié les fleurs dans le filet, redescendit, saisit vigoureusement son bagage, le leva bien haut et courut de toutes ses forces vers la sortie. Qu'était devenu le chapeau melon? Émile trébuchait sur les gens, les cognait avec sa valise et courait toujours. La foule, de plus en plus compacte, devenait impénétrable. « Ah! Voici là-bas le chapeau melon! Mon Dieu, encore un autre !» Émile pouvait à peine tirer sa valise. Il aurait bien voulu la poser et la laisser, mais on la lui aurait aussi volée. Enfin, il parvint à se glisser tout contre un chapeau melon. Était-ce le sien? Pourquoi pas? Non. Et l'autre là-bas? Non, l'homme était trop petit. Émile se faufilait comme un indien à travers cette masse humaine. Là-bas, là-bas! C'était son voleur, Dieu soit loué, c'était bien Grundeis. Il franchissait justement la barrière et paraissait très pressé. Attends un peu, canaille, murmura Émile, je vais t'attraper. Il donna son billet, changea sa valise de main, serra le bouquet de fleurs sous son bras droit, et derrière l'homme descendit l'escalier en courant. C'était l'instant décisif. Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 65, Émile et les détectives, par Erich Kästner.